Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
C'est marrant, le jeudi, les débats sont toujours très animés, hors antenne, avant l'antenne. 8h48, avec nous dans ces grands débats aujourd'hui, Françoise de Goix, Elisabeth Lévy.
On ne s'engueule pas.
Pas du tout, pour l'instant, pas du tout. On va revenir sur cette troisième dose. Hein. Faut-il immédiatement ouvrir la vaccination à tous? Pour l'instant, vous
alors
dites
oui, c'est une autre question.
Ouais, 83%, il y a le collectif qui dit cette dose de booster est bien bénéfique pour un pan de la population plus fragile, admettons, mais pour les autres, non. Voilà. Et Jean nous dit, aujourd'hui, je me demande si ces vaccins ne sont pas des placebos vu l'efficacité. Voilà, comme ça c'est réglé.
Non mais on avait un spécialiste, un virologiste ce matin, vous avez entendu, qui travaille en fait des recherches et il est assez neutre par rapport en fait à ça. Il nous disait que ça dépend aussi beaucoup des personnes, bien sûr quoi. Sur des personnes plus fragiles, c'est efficace. Il y a une efficacité quand même pour diminuer la gravité, bien sûr, en fait de la maladie. Et puis après, il y en a pour qui ça va être efficace pendant 4, 5, 6, 7, 8 mois. Et puis d'autres où l'efficacité, les anticorps, la fabrication d'anticorps sera moindre déjà au bout de quelques semaines.
Et est-ce qu'on peut le mesurer facilement?
Sur chaque personne, non.
Non, il n'y a pas moyen d'avoir un taux d'anticorps.
Il travaille en fait sur ces questions. Ce qui ressemble d'ailleurs finalement tout autant qu'un vaccin, quasiment en fait à un traitement.
Le problème, le problème, si vous voulez, dans l'esprit des gens, ça commence à devenir fou si on va vers ces mesures, qu'on soit obligé de faire un rappel tous les 5 mois. Déjà, il y a quelque chose qui ne colle pas sur le plan vaccinal, sur le plan de l'idée même que nous avons des vaccins. La polio, c'est 4 ans, 10 ans, etc. C'est le premier point. Le deuxième point, aucun spécialiste sérieux n'est capable de dire quelque chose sur l'immunité. On sait très bien que vous avez, en plus de ça, l'immunité cellulaire, qui n'a rien à voir avec les anticorps que vous avez dans le sang. Donc, il y a quelque chose, un domaine de lassitude, et puis aussi d'incompréhension. Et puis, pardonnez-moi de vous le dire, c'est pas complotiste de le dire, je le dis parce que j'en ai marre qu'on puisse pas poser de questions dans ce débat. Honnêtement, il y a de plus en plus de journaux très dignes, très sérieux, qui commencent à faire des papiers sur des effets secondaires. Moi, je trouve un peu inquiétant.
Il y en a toujours.
Moi, j'ai pas envie d'être comptable un jour d'un scandale sanitaire parce que j'ai appelé à me vacciner.
Soit j'ai raté quelque chose, soit vous n'êtes pas ministre de la Santé, donc vous n'en serez pas comptable, ma chère Françoise.
Oui, mais on est des influenceurs, Elisabeth.
Moi, si vous voulez, j'ai aucune connaissance, ça ne me choquerait pas, ça ne me choque pas si on doit faire une troisième dose, qui m'exaspère, et là je rejoins Françoise, que j'ai entendue, c'est ce qui me tape sur les nerfs, mais je l'ai déjà dit, si vous voulez, c'est cette espèce de chèvre et chou, ou d'entre-deux, où le gouvernement pourrit la vie des gens qui ne se vaccinent pas pour les obliger à se vacciner, mais sans... dire c'est obligatoire sans l'assumer. Alors on me dit
vous dites il faudrait que ce soit obligatoire. Mais et puis écoutez, après qu'il y ait des dérogations pour les personnes qui ne peuvent pas.
Mais obligatoire évidemment. Quand on fait une obligation, on prévoit des exceptions. Si vous voulez, évidemment, les gens qui ne peuvent pas se vacciner, ils ne doivent pas se vacciner.
Celles qui ont des fragilités par ailleurs, etc.
Oui,
avec des vaccins.
Et la deuxième chose, si vous voulez, c'est que je serais beaucoup plus confiante si j'avais un ministre qui venait me dire à la télé, je ne sais pas. Au lieu de me dire, je sais A le lundi et puis B le lundi suivant et puis C le lundi d'après, en fait le jeudi pardon, avec un air toujours aussi péremptoire et content de lui, si vous voulez, qui viennent à la télé, qui disent écoutez, pour l'instant on n'a que le vaccin, on n'a pas mieux, mais je dois vous dire mes chers concitoyens que nous ne savons pas si c'est la panacée, nous savons que ça diminue
s'il y a le doute, vous allez renforcer le doute,
mais vous voyez bien qu'il y a un doute,
on le voit, le doute,
c'est une question de vérité en fait,
ça devait nous protéger de tout, les gens se contaminent, le virus circule,
c'est un peu ceinture et bretelle.
Vous avez évoqué l'immunité, on sera avec un grand spécialiste qui sera avec nous tout à l'heure à 9h15.
Patrice Debré,
professeur d'immunologie à l'université Pierre et Marie Curie, membre titulaire de l'Académie de médecine. Alors lui, il a entamé beaucoup de recherches et beaucoup de travaux depuis des années sur le sida. Et vous savez que beaucoup des chercheurs ont été déroutés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils travaillaient sur le sida et ensuite sur les autres pandémies, bien sûr Ebola et les autres pandémies, et notamment le coronavirus. Il sera avec nous tout à l'heure parce qu'il sort un livre particulièrement intéressant, La recherche en temps d'épidémie du sida. sida justement au Covid. Ce sera à 9h15. Cécile, 0826-300-300.
Hein. Oui, 0826-300-300, c'est notre auditeur qui est avec nous ce matin, Olivier de Bordeaux qui est là. Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier.
Oui, bonjour à tous, merci de m'accueillir.
Ben, merci à vous de nous appeler.
Oui.
Bonjour Olivier.
Vous vouliez réagir, bonjour. Olivier.
Ouais, j'ai pris ce sujet parce que je sors du Covid. Voilà, précisément. Mmh.
Un Covid virulent?
Non. Enfin, non. Bon, ce qui est désagréable, c'est la perte d'odorat, mais autrement, il y a eu pendant 3 jours un peu la barre au crâne, des courbatures, un peu de fébrilité, une fatigue, hein, un petit, mais ça a duré 3-4 jours. Ouais. Et là, ça s'estompe. Il y a une toux un peu chronique qui reste, mais j'ai lu que c'était assez, assez normal. Et puis, j'ai des super anticorps maintenant.
Voilà, c'est ça.
Et vous étiez vacciné?
Alors, je vais vous répondre, bien que je trouve qu'on ait banalisé cette question qui relève du secret médical.
Ah, non, mais c'est vrai. Non, mais vous n'êtes pas obligé.
Vous n'êtes pas obligé de répondre.
Non, je vais vous répondre, mais je fais la remarque parce que ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup choqué, le fait justement que tout le monde rentre dans cette banalisation du secret médical comme si c'était un truc normal. Bon.
Bravo, Olivier.
Il a raison. Donc, Je retire ma question.
Non, mais vous faites, ça me donne l'occasion de le dire. Je ne me suis pas encore fait vacciner. Autant ma mère, qui a 87 ans, est vaccinée, et ça m'a rassuré qu'elle le fasse. Ouais. Autant moi, j'y ai pas vu d'intérêt. Alors, il y a une réaction qui est, d'abord parce que je vois pas l'intérêt aujourd'hui pour moi, et ensuite, il y a une réaction politique parce que je vois qu'ils ne maîtrisent rien. Voilà, on a affaire quand même à des amateurs. Castex, moi, je l'ai entendu dire, quand on était vacciné 2 fois, on n'avait aucun risque de l'attraper. Bon, il est comme Grosjean en train de se soigner aujourd'hui et après avoir contaminé le Stade de France. Bon, je plaisante, mais bon, au passage... Les spécialistes des gestes barrières et des conseils, etc., quand même, ils se posent là, ils faisaient la teuf aux Antilles, les uns et les autres. Moi, je suis assez choqué par ce qui se passe. Leur 3e dose, ils vont l'ouvrir. De toute façon, vous nous demandez notre avis, eux, ils vont pas nous le demander. Mmh. Et puis après, il y aura la 4e, après, il y aura la 5e, etc. On est quand même dans un... Moi, j'ai la sensation profonde qu'on nous vend du vaccin. Et ça m'indispose profondément. Ah, je pense qu'il faut pas mettre de côté les données économiques que représente ce vaccin et le fait qu'on n'ait pas ouvert au public les brevets. Mmh. Moi, je pense que ça fausse un petit peu quand même l'approche de soins. Mais bon, c'est un débat.
Hein. Bien sûr. D'abord, excusez-moi, Olivier, ensuite, juste par rapport au débat qu'on a, je ne veux pas être indiscrète, mais vous avez quel âge? Vous avez une voix assez jeune.
C'est gentil.
Secret médical.
Vous avez la cinquantaine.
J'assume, j'ai 55 ans.
C'est jeune, c'est nos âges,
donc c'est très jeune.
Vous avez la voix jeune aussi, Elisabeth.
Merci. Non, juste une chose, quand vous dites, ils décident sans nous. Mais écoutez, ils décident sans nous. C'est-à-dire que c'est la démocratie représentative. On élit des gens, ils prennent des décisions. On ne va pas faire un référendum à chaque fois qu'il faut prendre une décision. Sur les questions sanitaire.
Ils ne respectent pas, Elisabeth. Hein. Ouais. Le dernier référendum qu'on a voté, ils ne l'ont pas respecté.
Sur une question de pandémie, si vous voulez, oui, moi je m'en remets aux autorités médicales et politiques, c'est leur boulot. Après, on peut contester leurs décisions, on peut contester leur louvoiement, et moi ce que je dirais, parce que vous leur reprochez en fait de ne pas savoir, et ça je ne sais pas si c'est juste, parce que la réalité c'est que je veux dire, ce ne sont pas des scientifiques, et ils dépendent des scientifiques qui eux-mêmes n'ont pas l'air très clairs. Ce qu'on peut leur reprocher, surtout, c'est plutôt de ne pas être très clair, c'est d'être extrêmement péremptoire quand ils s'adressent au peuple, alors qu'en fait, ils ne savent pas. Mais moi, si le ministre venait en disant, écoutez, on ne sait pas très bien, je ne lui en voudrais pas.
Mais c'est ce que dit notre Audi, vous avez absolument raison, c'est-à-dire que Jean Castex a été dans l'affirmative, il se retrouve l'arroseur arrosé. Il y a beaucoup de manquements à la parole politique aussi, surtout, c'est ce que je crois. C'est-à-dire que il y a un problème, chaque fois qu'Olivier Véran dit quelque chose, on peut considérer que l'inverse arrivera. Et ça, c'était un vrai problème.
C'est une boussole qui indique le Sud.
Ouais, il indique le Sud en permanence. Nous ne toucherons jamais, nous n'assujettirons jamais le pass sanitaire à la troisième dose. Pas Fournier, hein, c'est exactement ce qu'il va annoncer. Oui. Donc, c'est ça. Et puis, le deuxième point, c'est l'attitude et c'est aussi cette façon de créer finalement un climat dégueulasse entre les vaccinés et les non-vaccinés. Ça, vraiment, il y a une culpabilisation maintenant des non-vaccinés qui est en train de s'installer. Je pense que ce qui se passe à la Guadeloupe et à la Martinique, il faut le prendre en sérieux, il faut entendre ces populations. C'est un territoire complexe qui a une défiance à juste titre sanitaire contre l'État central. Et je pense que la réponse, là encore, du gouvernement sur nos amis des Antilles, c'est une réponse à côté, arrogante. On recommence avec les minorités récalcitrantes, tatata. C'est ne pas tenir compte de la réalité de ce que sont les Outre-mer.
Allez, on poursuit dans un instant le débat et notamment on vient sur la question des migrants avec le drame dans la Manche d'hier, les 27 victimes. Il y a eu quelques rescapés, vous avez vu, il y avait des enfants, des femmes, etc. Allez, on y revient dans un instant.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h07, la suite des grands débats ce matin. Elisabeth Lévy, Françoise de Gouin, vos appels 0826-300-300. À quelques messages sur cette question, drame des immigrants à Calais. À quel niveau se trouve avant tout la responsabilité? Est-ce que c'est la Grande-Bretagne? Est-ce que c'est l'accueil en France? Est-ce que c'est la politique européenne ou les passeurs? Vous dites la politique européenne à 63%. Et Daniel nous dit, il faut tout simplement fermer les frontières et bien gérer la venue des personnes. La France est une passoire, mais c'est très mal géré en France. Et puis c'est tout. Et puis Hermeline nous dit que c'est les ONG, selon elle, qui sont responsables de ce désastre. Et on va en parler dans un instant, bien entendu.
Bon, voilà, c'était aussi ce que disait Elisabeth Lévy tout à l'heure. C'est-à-dire une forme de complicité. Vous pouvez réagir, bien sûr, qui est responsable. Hein. Avant cela, voyons ce qui se passe du côté aussi, justement, de Calais et de toute cette région où il y a 110 km de côte côté français, 150 même si on inclut en fait la Belgique, pour pouvoir ensuite prendre ces bateaux de fortune et traverser la Manche. Il y a une trentaine de kilomètres par endroit. Des traversées, dans le factuel, on voit ça avec vous, Félix Mathieu, des traversées vers le Royaume-Uni qui sont en nette hausse cette année.
Hein. Oui, plus de 23 000 migrants auraient déjà rejoint les côtes britanniques dans des bateaux de fortune, comme ça, selon le décompte du ministère britannique de l'Intérieur. C'est deux fois plus que sur toute l'année dernière. Plus de 1 000 personnes, par exemple, arrivé en une seule journée en septembre. À l'époque, le chiffre avait été abondamment relayé par la presse britannique. Un constat d'ailleurs corroboré côté français par la préfecture maritime de la Manche qui constate aussi de plus en plus d'opérations de sauvetage.
Oui, et c'est là le point sensible entre la France et la Grande-Bretagne.
Oui, les Britanniques qui ont promis 63 millions d'euros à la France pour l'aider à augmenter le nombre de patrouilles. De l'argent qui tarde à venir. Les Britanniques reprochant en fait aux Français de ne pas en faire assez. La France qui, en réponse, reproche justement au Royaume-Uni de ne pas verser l'argent promis. 600 policiers et gendarmes mobilisés chaque jour, fait valoir le ministère français de l'Intérieur. En tout cas, face aux menaces britanniques de renvoyer à l'avenir toute embarcation clandestine vers les eaux françaises, Gérald Darmanin a parlé de chantage et de violation du droit de la mer.
Merci Félix Mathieu pour ce factuel. Elisabeth Lévy, j'ai vu, vous vouliez réagir.
Vous disiez 30 km déjà pour la Manche, il y a des endroits où c'est 80. Hein,
oui, c'est ça. Ça dépend, plus on monte ou plus on descend, bien sûr.
Effectivement, c'est sur la côte du Calaisie que c'est le plus étroit.
Rapproché, le plus étroit, bien sûr.
Donc, encore une fois, le bateau d'hier était parti plutôt de la région de Dunkerque. Il n'était pas parti tout simplement parce que les gendarmes quadrillent assez bien les dunes qui sont autour de Calais. Vous savez, vous avez tous vu ces images des zodiacs qui sont détruits, en fait, pour pas pouvoir être utilisés. Il y en a d'autres dans les zodiacs saisis que la préfecture a tout de même remis en vente sur eBay, c'est les passeurs qui les ont achetés.
Oui, fait. Alors c'est ça, parce que on sait qu'il y a quelques jours, Decathlon avait dit qu'ils arrêtaient les ventes de kayaks en fait dans la région.
Voudrais réagir au sondage à ce que disent nos auditeurs. Alors oui, si vous voulez, on peut dire que la politique européenne est responsable parce qu'elle est mi-chef mi-chou, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas trouvé un système pour examiner les demandes d'asile à nos portes, si vous voulez, les gens, évidemment, dès qu'ils ont mis le pied sur le sol européen, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de les faire partir. On connaît le problème des OQTF, des expulsions, etc. Donc, tant que les gens arriveront en masse pour venir, si vous voulez, dans nos pays, et très peu, il y en a qui ont le droit à l'asile, bien sûr, à l'asile politique, à la protection de nos lois, mais pour la plupart, ce sont des migrants économiques. Et effectivement, il y a une responsabilité. Mais je voudrais insister sur la responsabilité des ONG et des bons sentiments. Parce que maintenant, dans leur statut, ces gens parlent d'un droit de migrer, c'est-à-dire l'Europe est un droit de l'homme. Eh bien non, l'Europe n'est pas un droit de l'homme, l'Europe ne peut pas malheureusement accueillir toute la misère du monde, et encourager ces migrations, encourager les gens à partir de chez eux, en gros, pour venir chercher une vie meilleure en Europe, c'est criminel. Et par ailleurs, il y a une collaboration de fait, alors c'est aussi vrai en Méditerranée, mais c'est vrai dans la Manche, entre les passeurs et les ONG, puisque en gros, qu'est-ce qui se passe concrètement? Les gens montent sur ces bateaux donc, qu'ils payent pour ils payent les passeurs pour monter sur ces bateaux, et dès qu'ils sont sortis des eaux territoriales du pays qu'ils veulent quitter, hop, vous avez une ONG qui vient les récupérer. Donc il y a une véritable collaboration.
Ça,
ils ont les numéros.
En Méditerranée surtout. Quoi.
C'est pas aussi. Alors non, nous, on publie un reportage.
Dans la Manche aussi.
On publie un reportage d'Erwan Seznek qui a fait un sacré boulot dans le prochain numéro de Causeur. Moi, j'ai beaucoup appris dans ce reportage. Et non, je veux dire, ça existe. Ces gens ont le numéro.
Bien sûr.
Ils arrivent, ils montent dans les bateaux avec le numéro de l'ONG qu'ils doivent appeler. Donc il y a un jeu des ONG, si vous voulez, qui ne va pas.
François, je pense pas que c'est un jeu. D'abord,
c'était pas. Je le disais pas de façon.
Déjà, Elisabeth, on va tous être d'accord pour dire que c'est insoutenable ce qui s'est passé hier. C'est, je comprends moi l'émotion et il faut le redire.
Bah oui.
C'est 30 vies humaines. La Méditerranée est en train de se transformer en cercueil. Eh bien, la Manche aussi, de la même manière. Donc, il faut bien comprendre que ces gens-là, migrants économiques, mais pas simplement. Vous avez fui la guerre, vous avez payé des fortunes, vous avez échappé au viol, vous avez marché, vous avez attendu, vous êtes dans des camps de fortune, vous avez un espoir, de l'autre côté de la Manche, d'un pays où on s'arrange avec la main d'œuvre étrangère. Vous savez, c'est quand même la Grande-Bretagne. On peut trouver des contrats, on peut bosser pour 800 euros au Black. C'est très facile. Il y a cet appel d'offres, cet appel général du marché du travail britannique, qui est bien plus intéressant quand vous fuyez la misère. Et je ne vais pas faire le numéro si c'était nous. Eh bien oui, si c'était nous, voilà. Quand vous fuyez la misère, eh bien vous n'avez pas envie de rester en France, parce que tout de toute façon, la façon dont vous êtes accueilli à Calais, eh bien, ça n'est pas digne. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les camps.
C'est pas gentil pour les gens du Calaisis.
Mais moi, je les aime beaucoup. J'aime Natacha, mais il y a aussi les associations. Font un travail remarquable. On peut pas foutre à la poubelle comme ça les ONG. Les ONG, elles se battent pour les droits humains, pour essayer de faire que ces gens ne vivent pas. J'ai travaillé beaucoup à l'époque avec Damien Carême, qui était le maire de Grande-Synthe, sur son campement. C'est l'enfer de gérer ça. Pour Natacha.
Mais un droit à migrer, ça vous... Non, mais là, je vous pose une question.
J'ai une question, je termine en disant qu'on ne peut pas foutre aux chiens, c'est pas ce que vous faites, mais dire les ONG coupables, etc. Non, on essaie d'améliorer la vie des gens. Il y a un Eldorado de l'emploi en Grande-Bretagne pour ces gens-là. Il n'est pas en France.
Bah, il y en a en France aussi, hein. Beaucoup de saisonniers, il y a beaucoup de... Mais si, énormément aussi.
Excusez-moi,
les papiers sont difficiles à obtenir en France. Ouais. C'est comme l'extrême droite italienne qui passe son temps à taper sur les migrants et qui emploie les migrants dans tout le sud de l'Italie.
Vous avez parlé 3 minutes 30, elle vient de parler 3 minutes, elle est 18. Allez, c'est
alors, excusez-moi Françoise, mais moi, je ne jette pas les ONG aux chiens. Je constate que leur discours est un discours politique, un discours d'accusation permanente contre la France. Or, ça n'est pas aux ONG de décider que les Français doivent accueillir des millions ou des milliers.
Il n'y a pas de millions.
Ça n'est pas aux ONG de le décider. Je commence à en avoir marre de leur préchat et de leur façon d'engueuler tout le monde. Les habitants du Calaisis sont des gens qui se défoncent malgré tout ce qu'ils subissent. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de générosité là-dedans. Quand les ONG, là-dessus, vous ne m'avez pas répondu, c'est pour ça que je cherchais à vous, pour que vous me répondiez, les ONG parlent désormais d'un droit à migrer. Droit à migrer n'existe pas.
Eh bien, moi, je le crois.
Eh bien,
il faut créer un droit. Vous savez, Elisabeth, je pense qu'on est qu'au début.
Ça doit être démocratique.
Mais après, c'est des discussions qu'il faut avoir. C'est pour ça que la question est qui est responsable. C'est un peu tout le monde et un peu personne. Je pense qu'il y a des discussions, la politique, l'Europe doit avoir une discussion commune sur la façon dont on gère les frontières extérieures, sur la façon dont on accueille, sur la façon dont on se répartit la tâche, parce que ces migrations-là, Elisabeth, c'est que le début. Le 21e siècle, rapport du Haut-Commissariat aux réfugiés, c'est pas qu'il n'y a plus de frontières, c'est qu'il y a des gens qui vont migrer pour le climat. Vous savez que 90% des migrations se font à l'intérieur des continents. Exemple, l'Afrique, on dit « Oh là là, l'immigration subsaharienne vers l'Europe ». La réalité, c'est que 90% des migrations africaines se font à l'intérieur de l'Afrique. Nous allons avoir des migrations de déstabilisation géopolitique, mais des migrations climatiques. Nous sommes...
Oui, enfin, on nous a raconté ça pour la Syrie, c'est complètement bidon.
Non, mais c'est pas ça. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans un siècle où on va migrer, parce que vous avez des migrations de la misère. Il faut gérer ce problème, mais on peut pas le gérer en disant toutes les associations racontent n'importe quoi. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Les États, l'Europe et les ONG. Et on régule ça.
J'ai dit qu'elles n'ont absolument aucune légitimité pour imposer un droit de migrer.
Françoise de Goy, oui, le droit de migrer.
Non, elles n'ont pas, mais moi je crois au droit de migrer. Non, mais là vous avez raison, mais je crois au droit de migrer.
Merci, vous avez dépassé le temps. Laurent, qu'on devait prendre 0826-300-300, il y a des appels, mais là on doit passer en fait à notre autre partie. On a été un petit peu plus long que prévu. Allez, Laurent, pardon, et on vous reprendra bien sûr, ou vous pouvez appeler aussi pour poser des questions au professeur d'immunologie Patrice Debré, qui va être avec nous dans un instant.
Et puis je vous rappelle qu'à 9h45, on viendra sur cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, avec un témoignage incroyable, et puis on en parlera bien entendu avec un commandant de gendarmerie qui nous donnera toutes les possibilités justement de signaler. À tout de suite, 9h.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h20, on va évoquer la recherche et le rapport forcément entre la société et la science dans les différentes épidémies. Patrice Debré est avec nous, bonjour, merci d'être là. Vous êtes professeur d'immunologie à l'université Pierre et Marie Curie et puis membre titulaire de l'Académie de médecine et auteur de ce livre « La recherche en temps d'épidémie, du sida au Covid, histoire de l'ANRS » aux éditions Odile Jacob.
Oui, professeur Debré, vous étiez en train d'écrire sur tous les travaux de recherche justement autour du sida quand vous avez été rattrapé entre guillemets par le Covid. Hein. On va voir ça dans un instant. Avant, puisque vous êtes un spécialiste et professeur d'immunologie, il y a beaucoup de questions qu'on se pose là, autour de l'immunité, bien sûr, ouais, bien sûr, sur le Covid. Vous aviez vu en sortant du studio Françoise de Goy, Elisabeth Lévy, ouais, qui parlaient en fait d'échanges autour de ça. On avait d'ailleurs pour le Covid, il y a un an et demi en arrière, on a dit qu'il faudrait qu'il y ait une immunité collective pour venir à bout de ce virus. Maintenant, on dit non, on n'y arrivera pas avec ça.
Alors, quand on parle d'immunité, ou plus exactement d'immunité contre une maladie infectieuse, virale notamment, puisque c'est de ça dont il s'agit, il faut réfléchir à deux concepts un tout petit peu différents qui se rejoignent. Vous avez d'une part une immunité qui va vous protéger contre la transmission virale, c'est-à-dire le fait que le virus puisse passer de l'un à l'autre. Et puis ensuite, vous avez une immunité qui va vous protéger contre la maladie. Je prends le cas du tétanos, par exemple. Vous êtes vacciné contre le tétanos, ça vous protège contre la maladie, mais ça ne vous protège pas contre la transmission. Et donc, ces deux immunités, quand le Covid est arrivé, ont posé un certain nombre de questions. Et petit à petit, on est amené, ou on a été conduit à les résoudre, ou tout du moins à penser les résoudre un temps par le vaccin. On s'est d'ailleurs à ce moment-là demandé si le vaccin allait nous protéger contre la maladie ou s'il allait nous protéger contre la transmission. Ouais. Ce qu'on aperçoit, c'est qu'en fait, vous avez une sorte de dissociation immunitaire. Vous êtes protégé plus longtemps contre la maladie que vous ne l'êtes contre la transmission. Et c'est cette diminution de la transmission qui fait ou qui va conduire à des obligations de rappel.
Ouais. Qu'est-ce qui fait, en fait, il y a un problème de confiance entre la société et la science. Est-ce que c'est parce qu'on est mal informé, qu'on raconte n'importe quoi, que finalement on ne sait plus ?
Alors, ce que j'ai souvent dit à vos radios, à d'autres aussi, écrit aussi dans un certain nombre de livres d'ailleurs, c'est qu'il faut dissocier ce qu'on appelle l'information de l'éducation. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, toute cette éducation, en particulier concernant les épidémies, et c'est de ça dont parle mon livre aussi, toute cette éducation doit se faire plus souvent en temps de paix, c'est-à-dire hors épidémie, et qu'on apprenne aux gens qu'est-ce que le système immunitaire? À quoi sert-il exactement? Mm-hmm. Comment marche-t-il? Comment fonctionne-t-il?
Comment on le stimule?
Et comment on se stimule? Comment on se défend, etc. Et également aussi, qu'est-ce que c'est qu'un microbe? Là, la société est inondée d'informations. Elle n'a pas forcément le temps de le capter, et elle n'a pas le temps non plus de comprendre que, eh bien, la recherche avance, mais les vérités apparaissent les unes après les autres, d'une certaine manière. On découvre que les anticorps diminuent avec le temps, qu'il faut les restimuler pour obtenir une protection efficace, que ce soit contre l'une ou l'autre des deux pans dont je vous citais tout à l'heure. Et tout ce niveau d'information est si rapide, en fait, que l'on n'a pas le temps de prendre le moment de l'éducation.
Ouais.
Et on aurait dû prendre au départ, d'ailleurs, et l'idée de dire qu'est-ce que c'est que le système immunitaire. On est arrivé à parler tout de suite du virus. Ouais. Il aurait fallu
c'est
en
vrai,
même temps parler
vrai,
du système.
Ouais, et booster. Et là, par exemple, il y avait des gens qui étaient un peu réticents à la vaccination et qui le sont toujours, qui disaient, oui, mais il faut surtout qu'on booste notre immunité, en fait, notre système de défense immunitaire.
Non, mais votre système...
Et fondamentalement, ils ont raison, c'est vrai.
C'est comme... Enfin, booster.
Booster, bah, en tout cas, non mais...
Normalement, vous avez un cœur, vous avez un foie, vous avez...
Non mais avec, à travers certaines vitamines, on parle de la...
Mais
non, il y a la vitamine D, il y a... etc.
Mais le système immunitaire est un système comme les autres. Vous n'allez pas brutalement le changer, sauf quand vous lui faites des vaccins contre, des stimulus antigéniques divers et variés au cours de transplantations ou autres. Mais vous ne pouvez pas, vous n'allez pas le changer du jour au lendemain.
Le booster, quoi, c'est ça.
Vous pouvez le booster avec des vaccins, mais vous n'allez pas changer conceptuellement toutes vos populations cellulaires qui sont en train de fabriquer des anticorps ou d'autres modes de défense un tout petit peu plus compliqués. Vous n'allez pas les changer du jour au lendemain.
Ouais.
Vous allez les stimuler quand vous avez un antigène, c'est-à-dire que vous allez dans une fonction particulière de défense, ça va être spécifique au stimulus que vous allez lui donner, mais vous n'allez pas changer totalement par quelques vitamines votre...
Mais ça sert à... Alors, parlons-en clairement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, alors il faut prendre telle vitamine D, ça sert à quelque chose ou c'est de la poudre de perlimpinpin?
Mais non, écoutez, il n'y a pas de médicament, de recette miracle qui va vous faire que vous allez du jour au lendemain fabriquer plus de cellules immunitaires, entre parenthèses, heureusement pour nous, parce que vous pourriez être inondé de cellules et c'est ce que vous voyez au cours du cancer. Non, les cellules immunitaires, elles sont faites et elles se répartissent dans le corps selon une règle, ou des règles d'ailleurs, extraordinairement fines, qui permet que, heureusement pour nous, vous avez un organisme qui lutte contre les microbes.
Bon, on va revenir...
Entre parenthèses, juste un autre point. Oui. Vous avez les microbes dangereux dont on parle aujourd'hui, mais vous vivez avec des microbes.
Oui.
Vous sommes
entourés.
Non, vous votre corps est fait en 90% de microbes. Je vous le rappelle, hein. C'est encore un autre de mes livres que j'avais écrit là-dessus, sur ce qu'on appelle le microbiote. Vous vivez avec des microbes, en permanence.
Oui, microbiote.
Voilà, c'est l'info du jour.
Dans un instant, on va voir aussi en quoi la recherche sur le sida a peut-être vous aider d'une manière ou d'une autre aussi dans la recherche contre le Covid, en fait, aujourd'hui. Et puis, on viendra aussi sur ce que vous avez réussi progressivement à découvrir, même si, évidemment, on n'est pas venu à bout du sida encore, bien sûr, malgré tous les travaux. Comme quoi, la recherche, ce n'est pas non plus un coup de baguette magique aujourd'hui.
C'est un long fleuve qui n'est pas forcément tranquille.
C'est ça. Allez, on voit ça avec vous, professeur Patrice Debré, dans un instant.
Et vous voulez poser vos questions, vous êtes les bienvenus, bien sûr, 0826-300-300.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h30, il y a bien un livre qu'il faut lire en ce moment, c'est celui de Patrice Debré qui est avec nous, hein. La recherche en temps d'épidémie du sida au Covid, histoire de l'ARS aux éditions Odile Jacob.
Oui, parce que c'est une aventure aussi que cette agence pour lutter en fait contre le sida et trouver justement des traitements. Alors, il y a un grand débat aussi entre traitements et vaccins autour du coronavirus. Sur le sida, comment tout cela s'est mis en place?
Et en fait, il a fallu, 8 ans avant que la société pousse, parce que c'est elle qui a poussé, le politique a créé une agence particulière. Qu'est-ce que c'est qu'une agence? C'est un établissement, une institution qui avec un budget, a permis de développer la recherche. Et c'est tout l'objet de mon analyse, et je dirais même de mon plaidoyer. Il faut absolument développer la recherche autour des maladies infectieuses, du Covid en particulier, pour ce qui nous concerne bien sûr aujourd'hui, et nous apprenons à travers le sida.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, beaucoup des équipes qui effectuent de la recherche sur le sida ont été, entre guillemets, déroutées là, ces derniers mois vers le Covid, ou pas alors ?
Oui, il y a deux idées derrière, si je puis dire. Ce que nous avons appris au cours du sida, c'est à faire travailler des scientifiques ensemble qui, antérieurement, ne travaillaient pas ensemble. Faire travailler non seulement les biologistes, les virologues, les microbiologistes, les immunologistes, mais aussi d'autres sciences, bien sûr, les physiciens, les chimistes, pour trouver des médicaments, et des sciences humaines et sociales. Et ce groupement particulier, cette multidisciplinarité qui fait la force, en fait, de la lutte contre les maladies infectieuses, eh bien, nous allons les retrouver au cours du Covid. Alors, un certain nombre d'entre eux qui travaillaient, parce que du sida au Covid, finalement, nous sommes en train de parler d'une interaction de l'homme avec un virus, dans un cas comme dans l'autre, même si, bien sûr, ce n'est pas le même, n'est pas le même virus.
On ne travaille pas vraiment ensemble. À travers les publications, c'est comme ça qu'on est informé que certaines équipes travaillent avant sur un sujet. Aujourd'hui, la technologie, en fait, les échanges à travers Internet, etc., n'ont pas permis d'accélérer. Si, quand même, un petit peu.
Mais bien sûr, vous avez... d'abord, les informations sont connues... quasi immédiatement d'une équipe à l'autre. Mais ce sur quoi j'insiste, et c'est tout l'avantage d'institutions comme celle dont nous parlons, l'ANRS en particulier, c'est qu'elle sait mettre ensemble des scientifiques, les réunir, les faire discuter, leur proposer des sujets qui vont depuis la société jusqu'à la vie intime du virus à l'intérieur de la cellule. Et tout ceci fait la lutte.
Oui. Est-ce qu'il y a des vraies réflexions internationales ? Est-ce que finalement on se retrouve assez souvent sur ces sujets-là, ou chacun fait ça dans son coin ?
Bien, écoutez, je vous laisse presque deviner vous-même. Il y a les deux à la fois. Bien entendu, les gens veulent travailler les uns avec les autres ensemble pour avancer plus vite, mais vous avez aussi une compétition. Parce que la carrière d'un scientifique, c'est aussi d'arriver le plus vite possible à trouver...
Oui, c'est pas pour le bien commun, c'est pour...
C'est pour le bien commun. Mais vous avez des formes de compétition. Et d'ailleurs, on l'a bien vu au cours du sida, finalement, l'Europe, pendant longtemps, a fait que les scientifiques travaillaient chacun de leur côté. Et ce n'est que plus récemment qu'ils se sont mis à travailler ensemble sur certaines de ces problématiques.
Oui, c'est ça. Et donc, pour revenir en fait à l'agence, il y a eu des chercheurs qui ont travaillé ensemble et sur des traitements, là en l'occurrence. Et quelques années après, ça a permis de déboucher sur des traitements qui sont la trithérapie, qui fonctionne.
Absolument, ça a été une nouvelle forme de la recherche clinique qui n'était plus seulement entre les mains d'industriels qui, au fond, mettaient un médicament sur le marché et le testaient antérieurement, mais c'était des chercheurs eux-mêmes qui, avec des nouveaux produits, dessinaient, inventaient des protocoles de recherche particuliers.
Oui, où on en est justement sur la recherche sur le sida aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut améliorer ?
Alors, aujourd'hui, on a beaucoup amélioré ce qu'on appelle la chimiothérapie, c'est-à-dire les médicaments qui en fait luttent contre le virus. Il y a, au lieu de prendre maintenant des dizaines de comprimés par jour, comme on le faisait à un moment déterminé, on arrive maintenant à des formules injectables à long terme, ou tout du moins on va les diffuser. Par contre, Oui, enfin, on peut rattraper beaucoup maintenant, grâce aux médicaments, beaucoup de formes dites évoluées. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est éradiquer le virus. On vit malheureusement, sauf des cas particuliers, des protocoles particuliers, on vit avec son virus. Autrement dit, les médicaments, jusqu'à présent, doivent être pris à vie. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas un jour.
Oui.
Mais aujourd'hui, c'est comme ça.
Et pourquoi on n'a pas trouvé de vaccin ?
Alors, il y a quelque chose de très particulier, une grosse différence peut-être entre la rapidité avec laquelle on a trouvé un vaccin contre le Covid et le fait que aujourd'hui, donc 40 ans depuis la découverte du sida, on n'a toujours pas de virus. C'est l'extraordinaire variabilité du virus du sida. Quand vous êtes infecté, vous avez des milliers de formes différentes. Il faut donc arriver à avoir un vaccin qui vous protège ou qui vous traite, d'ailleurs, puisque vous avez les deux formes théoriquement possibles, pour arriver à stimuler les défenses immunitaires. Mais nous ne savons toujours pas, en réalité, si le système immunitaire peut être suffisant pour prévenir une infection telle que le sida. Nous ne le savons pas. On ne sait pas complètement aujourd'hui quels sont ce qu'on appelle les corrélats d'immunité. Quelle immunité faudrait-il développer ? Bien entendu, les recherches se poursuivent, mais quelle immunité faudrait-il développer pour lutter contre le sida
aujourd'hui ? Et à contrario, donc pour le Covid, c'est l'inverse, quoi. Mais est-ce qu'on est en train de parvenir aussi quand même à trouver des traitements ?
Alors, oui, pour revenir à c'est l'inverse, entend beaucoup parler, c'est ce qui est stimulé par nos vaccins, hein, de la stimulation par des anticorps, mais oui. En réalité, il y a d'autres formes d'immunité, c'est-à-dire des cellules tueuses ou autres, dont on ne sait pas encore très bien quel est le rôle. Faut-il en réalité avoir les deux ? Faut-il avoir l'une ? Est-ce que l'une suffit ? Etc.
Oui. On sait qu'avec la fonte des glaces, forcément, des zoonoses vont émerger encore plus. Est-ce qu'on arrive à anticiper quand même aujourd'hui, ou est-ce que c'est
De plus en plus se met en place un concept qui s'appelle le concept une seule santé. Vous avez parlé de zoonoses. Qu'est-ce que ça veut dire zoonoses ? Parce que le public va poser la question. Oui. C'est lié une maladie qui passe de l'animal à l'homme. Vous savez que les deux tiers, probablement la quasi-totalité des maladies infectieuses humaines viennent en réalité des animaux. On le sait depuis la préhistoire, depuis que l'homme a domestiqué les animaux sauvages. Et à ce moment-là, eh bien, on a connu la grippe, le tétanos, la tuberculose qui venait du poulet, du cheval, du chien qui a été domestiqué. Bref. Le sida vient du singe, on le sait, des primates non humains, et pour le Covid, des chauves-souris, quelles que soient les hôtes intermédiaires de passage. Oui, donc effectivement, l'environnement, parce qu'il n'y a pas que les animaux, il y a l'environnement qui favorise aussi la transmission des microbes de l'animal à l'homme.
Oui, sur la question précédente, sur les traitements, vous pensez que là, visiblement sur
alors,
le Covid...
Je sais que toute l'industrie, bien sûr, est sur les traitements, avec des... On va revenir, mais des mécanismes qui peuvent se rapprocher également de ce qui a été fait pour le sida, et on peut espérer qu'on aura des médicaments antiviraux.
Il y en a quelques-uns qui vont être
mis en place.
Merci beaucoup, hein, Patrice Debré, professeur d'immunologie. La recherche en temps d'épidémie, du sida au Covid, l'histoire de l'ANRS, c'est aux éditions Odile Jacob. D'être venu ce matin
merci
sur Sud Radio.
Merci beaucoup.
Merci à vos auditeurs.
Ils vous remercient aussi. Ils ont laissé des messages pour vous. Et dans un instant, la France à vos côtés. On va revenir sur cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes avec un témoignage très, très poignant, hein, de Cyrine qui est avec nous, hein, qui a un compte Instagram, plus jamais silencieuse. Et puis la gendarmerie sera aussi avec nous pour nous proposer effectivement des alternatives et savoir qui appeler en cas de problème. À tout de suite, il est 9h39.